Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la vulnérabilité OpenSSL qui vient d'être rendu public. Et pour parler de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Jérôme Seize.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Nicolas, cette vulnérabilité, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Bon, c'est assez classique, c'est une faille logique. C'est pas un Stack Overflow, un Heap Overflow ou un truc comme ça, c'est une faille logique dans une fonction qui a été ajoutée il n'y a pas longtemps dans OpenSSL pour trouver des chemins de certification alternatifs. Alors j'avoue que je ne sais pas exactement dans quel cas ça peut être utilisé. J'imagine que s'il y a de la certification croisée ou des trucs comme ça, c'est peut-être utile, j'en sais rien. Mais du coup, s'il n'arrive pas à valider le certificat, il essaie de revalider par une méthode différente. Et du coup, tu peux arriver à le mettre dans un cas où il considère que le certificat est valide. Et à partir de là, si j'ai bien compris, avec un certificat quelconque, tu peux signer un certificat pour n'importe quel site que donc, c'est pas une CA, quoi. Je sais pas si c'est très clair comme explication. Jérôme, tu veux nous en dire plus ?
Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec un certificat qui a été délivré par un CA et qui n'est donc évidemment pas utilisable pour signer au nom de cette CA d'autres certificats, là, on va pouvoir signer des certificats au nom de la CA. Donc, ça veut dire qu'on peut finalement imiter n'importe quel CA. On devient chacun le CA qu'on veut.
Donc,
on a un certificat qui est délivré par cette CA.
Non, mais c'est quand même assez grave parce que ça permet de faire de l'interception.
Alors, ça permet de faire de l'interception. Donc, il faut déjà être capable de monter une attaque man in the middle. Ensuite, il n'y a pas beaucoup d'authentification entre du serveur au client. Le serveur authentifie rarement les clients, donc c'est plutôt une faille qui va toucher les clients qui vont tenter d'authentifier un serveur. Et on se rend compte finalement que la plupart des navigateurs aujourd'hui n'utilisent plus OpenSSL. Donc ça va quand même limiter grandement les gens qui peuvent être impactés. Firefox, IE et Google n'utilisent plus OpenSSL.
Mais les serveurs, eux, utilisent, une grande partie des serveurs utilisent OpenSSL.
Ouais, mais ils ne procèdent pas à une authentification. Enfin, ils procèdent rarement à une authentification du client. Généralement, 99% du temps, c'est le client qui essaye d'authentifier le serveur.
Mais Chrome est vulnérable.
Chrome, il n'est pas vulnérable. Chrome, il n'utilise pas OpenSSL. Et c'est surtout c'est l'équipe de Google qui a découvert la vulnérabilité chez OpenSSL.
Oui, mais il y a des navigateurs avec lesquels tu peux faire le man in the middle et d'autres avec lesquels tu ne peux pas. Sur Mozilla ou Opera, c'est pas possible. Alors que ça, sur Chrome, ça l'est.
Le man in the middle, ça va pas dépendre du navigateur, a priori.
Et d'après ce que j'ai pigé, c'est en fait quand tu as une chaîne de certification et que la première tentative de vérification de cette chaîne échoue,
tu as une alternative.
Il y a la possibilité en fait d'exploiter la vulnérabilité pour faire croire en gros que la chaîne est valide alors qu'elle ne l'est pas. Ça c'est pas dépendant du client. C'est dépendant en fait du serveur, non ?
C'est dépendant de l'attaque, c'est le man in the middle justement. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'attaquant se place entre le serveur et le client, qu'il réussisse d'une manière ou d'une autre à faire échouer la première tentative de validation de la chaîne du certificat et qu'il propose derrière un certificat qu'il aura lui falsifié. Donc ça se passe au milieu finalement.
Si tu fais juste un simple empoisonnement DNS pour rediriger vers un autre serveur et qu'ensuite tu mets ton faux certificat, ça marche ou pas ?
Je pense que ça marcherait, oui.
Parce que là, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Ouais. Enfin, soit en local avec de l'art spoofing, soit avec de l'empoisonnement DNS, soit avec du BGP. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de rediriger le trafic.
Je pense que ça marcherait effectivement en redirigeant le trafic aussi. Ouais.
Donc alors, Jérôme, avant de parler des impacts de cette vulnérabilité, on les a un peu évoqués, mais quelles sont les problématiques, générales d'OpenSSL ?
Ce qui me frappe dans OpenSSL, c'est le gap qu'il y a, incroyable, énorme, entre l'utilisation qui est faite d'OpenSSL. C'est quand même devenu, du côté serveur en tout cas, la librairie SSL la plus utilisée. Alors on peut discuter des chiffres, mais grosso modo, on estime qu'il y a les trois quarts des serveurs qui utilisent OpenSSL. Donc c'est énorme, c'est quand même un pilier de la sécurité sur Internet. Et à côté de ça, en face de ça, la faiblesse des moyens qui lui sont alloués. Alors c'est pas par malveillance ou c'est pas parce que les gens n'aiment pas OpenSSL. Hein. Parfois les choses se passent parce qu'on les laisse simplement se passer. Mais il se trouve que on avait avant l'attaque Heartbleed, il y avait un seul développeur à temps plein sur OpenSSL qui gagnait en plus une misère, qui était vraiment dégager un salaire assez misérable, et une petite dizaine d'autres développeurs amateurs autour de lui, enfin bénévoles autour de lui.
Mais cette disproportion, elle n'est pas du tout spécifique à OpenSSL. Elle est générique au logiciel libre et aux briques de base de l'Internet qui sont du logiciel libre, auquel il y a très très peu de contributeurs réels et encore moins de sponsors.
Alors elle est encore plus criante sur OpenSSL. Ça fait partie des projets les moins financés jusqu'à.
Disons qu'il y avait aussi des raisons à ça, c'est que OpenSSL étant tellement mal écrit, tellement difficile à comprendre et à s'insérer dedans, que évidemment ça n'inspirait aucun développeur.
Alors c'est possible, oui, tout à fait. Mais en tout cas le fait est là, c'est que on a quelque chose qui est devenu stratégique, vraiment critique pour la sécurité des échanges sur Internet, et qui pourtant est traité comme une PME de seconde zone ou une TPE de seconde zone. Quoi, c'est limite si c'était un auto-entrepreneur qui avait écrit ça. Donc il y a un vrai problème là.
Ok. Alors en ce qui concerne les impacts de cette vulnérabilité. Donc on a dit qu'il était possible, donc ça rendait possible un man in the middle. Mm-hmm. Il semble qu'il soit aussi possible de modifier une authentification faite par un certificat client. Mm-hmm.
Alors un autre point aussi qui limite la portée de cette vulnérabilité, c'est que elle n'affecte des versions d'OpenSSL très récentes seulement, c'est-à-dire c'est des versions qui ont été publiées en juin. Or, les grandes distributions, alors moi j'utilise essentiellement Debian et c'est pas le meilleur exemple parce que Debian est particulièrement long à intégrer des nouvelles versions, mais même d'autres distributions Linux ne sont pas aussi rapides. Donc ces versions de juin n'ont pas été, à ma connaissance, intégrées dans des distributions, les grandes distributions de Linux. Donc c'est vraiment une version d'OpenSSL qui n'a pas été énormément diffusée. Donc ça aussi c'est une chance, ça limite aussi la portée de cette vulnérabilité. Alors après, sur ce qu'on peut faire, il faut mettre à jour, tout simplement. Et c'est pas compliqué pour le coup, avec OpenSSL on a de la chance, c'est relativement simple.
Sur les clients également ?
Alors sur les clients, encore une fois, l'authentification du client ou des applications qui utilisent OpenSSL pour s'authentifier mutuellement, c'est très rare. Mais là, effectivement, pour celles qui le font, il faudra qu'elles soient mises à jour. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que l'éditeur le fasse et que l'utilisateur mette à jour, ce qui est déjà deux critères qui ne sont pas toujours remplis.
Ok, est-ce que vous voyez des choses à ajouter ?
Ouais, moi j'aimerais quand même dire que même si le projet OpenSSL est effectivement assez peu de support, il y a quand même pas mal d'initiatives dans l'industrie pour le rendre, enfin pour essayer d'améliorer la situation. Chez Google, il y a LibreSSL qui est un fork qui simplifie, enfin qui garde que les fonctions du cœur OpenSSL et du coup qui les audite, et c'est comme ça que cette faille a été trouvée. Et Amazon, quant à eux, vient de sortir un truc assez intéressant, puisqu'en fait c'est une sorte de wrapper qui permet d'avoir de l'agilité cryptographique. Le problème d'OpenSSL, pourquoi il équipe 75% des serveurs, c'est parce qu'il a une API complètement à chier. Et donc une fois que tu as commencé à développer ton application sur OpenSSL, tu t'es juste bloqué avec OpenSSL. Si tu veux migrer sur un truc plus simple, je sais pas, il y a des toolkits cryptographiques comme NACL ou il y a d'autres implémentations comme PolarSSL ou autre. Mais si tu veux passer d'OpenSSL à une autre implémentation, c'est extrêmement compliqué parce que les API sont totalement incompatibles. Et l'intérêt, ce qu'il faudrait en fait, c'est avoir une sorte d'interface standardisée, un truc genre IETF, et ensuite tu pourrais plugger n'importe quelle implémentation en dessous. Déjà, ce serait probablement beaucoup plus simple à utiliser que l'API d'OpenSSL tu sais jamais s'il faut que tu libères la mémoire, s'il faut que tu la loues toi-même, etc. Et ensuite, s'il y a un bug dans telle version, tu pourrais facilement switcher sur une autre implémentation qui est potentiellement pas vulnérable. Mais bon, ça c'est La situation n'est pas totalement perdue, on va dire. Il y a des gens qui ont compris qu'on était trop dépendant d'OpenSSL et que ça devait s'améliorer.
Ça, c'est grâce à AirBleed. Hein. Jusqu'à AirBleed, absolument personne n'avait fait d'effort d'améliorer la situation.
Alors, c'est d'autant parce que
tout le monde pensait qu'OpenSSL était bon.
Ouais. Mais c'est d'autant plus grâce à AirBleed que AirBleed a permis une prise de conscience assez massive. Donc, il y a eu une initiative sous l'égide de la Fondation Linux pour lever des fonds auprès des grands utilisateurs d'OpenSSL. Donc, on a les Amazon, IBM, etc. qui ont mis la main à la poche. Alors, c'est un programme qui n'est pas dédié à OpenSSL, mais il y a quand même 4 millions de dollars sur 3 ans pour les projets sous-financés. En premier lieu, c'est OpenSSL, évidemment. Et l'un des premiers effets de ce projet, c'est d'avoir permis de recruter un nouveau développeur à plein temps pour OpenSSL. Et le deuxième, alors c'est un peu ironique, vous allez dire, c'est qu'un audit du code d'OpenSSL a été lancé en mars et les premiers résultats devaient tomber en juillet. Là. Bon, on a vu un premier résultat qui n'est peut-être pas celui qui ne vient pas déjà de l'équipe d'audit et qui n'est pas celui qu'on attendait. Mais ça veut dire que voilà, il y a un peu de sous, il y a un développeur supplémentaire et il y a un audit qui est financé. Donc à court terme, ça permet déjà d'être un peu plus rassuré. Et effectivement, à moyen ou long terme, comme tu le disais, Nicolas, l'idéal, ça serait d'avoir une couche d'abstraction entre la librairie elle-même et les utilisateurs et de pouvoir changer, switcher d'implémentation de SSL comme on veut.
Parce que l'audit d'OpenSSL, vu l'état du code actuel, je veux dire, c'est que des variables à une lettre et des macros et des define pour des architectures qui ont disparu depuis longtemps. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord remettre les choses à plat
Peut-être, oui.
C'est l'idée de LibreSSL, hein, supprimer tout ce qui sert à rien sur une machine moderne, garder que les cœurs vraiment utilisés, supprimer toutes les suites cryptographiques qui servent à rien, toutes les interfaces qui sont error prone, etc. Et après seulement tu peux commencer à auditer ce qui reste. Bon, ce qu'il faut dire aussi, le problème qu'il y a dans cette faille et qu'il y a eu dans AirBleed aussi, c'est quand même des failles qui affectent des nouvelles fonctionnalités. Le problème, c'est que SSL lui-même est un protocole en évolution. Là, on a TLS 1.2, mais TLS 1.3 a été présenté à STIC. Il y a plein de nouveaux trucs comme le zéro round trip, des choses comme ça, pour arriver à faire du SSL dès le premier paquet. Et tout ça, c'est des trucs qui vont nécessiter des nouvelles implémentations sur des protocoles qui n'ont pas du tout été. Enfin, c'est du nouveau design protocolaire et de la nouvelle implémentation. Et c'est là-dedans qu'il y a des failles.
Donc en fait là tu es en train de dire qu'il faudrait faut faire, il faudrait arrêter le développement pendant.
En fait ce qu'il est en train de dire c'est qu'il faut prendre une vieille branche d'OpenSSL dans laquelle il n'y a pas toutes ces nouveautés dont on a que faire sur nos systèmes habituels.
Ça peut être intéressant. Le zéro round trip justement c'est par exemple c'est super intéressant, ça faire du SSL dès le premier octet c'est super utile.
La branche 098 d'OpenSSL, elle avait été touchée ni par AirBleed, ni évidemment par aucune des failles actuelles.
Oui, mais je crois qu'il y a des trucs qu'elle n'est pas capable de faire. Hein. Tout ce qui est elliptic curve, etc., je ne suis pas sûr que ce soit supporté.
Et puis le support s'arrête bientôt, a priori.
Ouais, t'es sûr, parce que Apple, ils sont encore en 098 ZA par défaut dans Mac OS X.
Il me semble avoir vu que le support des versions 0.9.8 et 1 allait s'arrêter. Donc il n'y aurait plus d'update, même sécurité, sur ces versions-là. Prochainement, à la fin de l'année ou quelque chose comme ça. Mais c'est à vérifier. Hein,
Mac OS X va devenir gravement vulnérable. Alors.
Ou être mise à jour.
Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de designer des nouveaux protocoles. Je suis en train de dire que c'est quand même dommage qu'en 2015... quand tu implémentes une nouvelle fonction dans un protocole ou une nouvelle octet ou machin, tu refais les mêmes erreurs qu'il y a 15 ans. Ouais, l'ANSI te dirait qu'il faut probablement implémenter les nouvelles features en ADA ou en OCaml. Mais... non, mais il y a probablement quelque chose à réfléchir de ce point de vue-là. C'est comment tu peux refaire des erreurs alors que tout le monde sait que implémenter, modifier un protocole de crypto, c'est hyper compliqué, c'est hyper risqué. Et à la fin, il se passe exactement ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'il y a des failles qui sont introduites.
Mais c'est bien, ça a fait une vraie prise de conscience, parce que finalement, ce qu'on voit là dans OpenSSL, c'est-à-dire que c'était un gars tout seul, entouré d'une petite poignée, le core team qui développait. Le gars tout seul, il demandait rien, il gagnait pas trop d'argent, il était dans son coin, il travaillait, il sortait un truc qui, ça marchait, hein, Après, si on mettait pas le nez dedans, ça fonctionnait bien. Et ça, on le voit dans plein d'entreprises, finalement. Le gars qui travaille de son côté tout seul, qui délivre ce qu'il faut et qui se plaint pas, et on lui donne pas plus de moyens, hein. On le prend, on prend son travail pour acquis, on l'utilise et puis c'est fini. Donc là, au moins, on a vu que, effectivement, si on se préoccupait pas de la santé d'OpenSSL et si on se posait pas les bonnes questions, on allait avoir des failles à répétition. Parce qu'il y a eu celle-ci, il y a eu Heartbleed. Entre temps, il y en a eu aussi en juin, si je me souviens bien, il y a eu un petit route sur OpenSSL, donc ça, voilà, l'âge peut-être commence à montrer, donc c'est intéressant, ça permet de se poser les bonnes questions.
Enfin, tu sais, il y a un problème de base, c'est RiserFS. Qu'est-ce que tu fais si le développeur principal d'OpenSSL, il tue sa femme et il fait 10 ans de prison, qui est arrivé au mainteneur de RiserFS? Je veux dire, le gars, il peut, du jour au lendemain, il peut avoir un accident de moto, et si OpenSSL repose uniquement sur une personne dans le monde... On n'a même pas un problème de sécurité, quoi.
C'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a quand même un groupe de développeurs bénévoles qui sont autour. Mais c'est vrai que la force qui a drivé ça pendant très longtemps, c'est un seul gars, quoi. Enfin, un seul gars avec un de ses collègues, avec un ami qui était consultant en sécurité, je crois, dans le domaine militaire américain. Et pour vous donner une petite anecdote amusante, c'est que ce gars qui pourtant travaillait étroitement avec ce développeur, le développeur en question est tellement timoré, tellement discret, que le gars qui bossait avec lui sur OpenSSL ne savait pas ce qu'il en gagnait. Et il a découvert totalement par hasard à un moment donné que ce gars-là gagnait à peu près 5 fois moins que lui pour son boulot sur OpenSSL. Donc il y a un vrai aussi problème de communication, peut-être d'organisation de la team. Donc c'est compliqué. La fondation OpenSSL essaye de vendre du consulting, de faire un petit peu d'argent avec ça, mais je pense que tant qu'on n'aura pas pérennisé en tout cas les dons ou la participation des gros, on aura des problèmes.
C'est pas absolument certain que ce soit uniquement un problème d'argent, mais bon.
C'est pas que un problème d'argent. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Il y contribue largement quand même.
Non, mais si l'argent faisait du code de qualité...
Bien sûr. Le code de qualité, c'est des bons développeurs, c'est une bonne organisation et c'est de quoi les payer aussi.
Bon, et bien on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
À bientôt.
Salut. À bientôt.